Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Capi Service. Comment investir plus en faveur de femmes? C'est le sujet que nous allons aborder tout à l'heure avec Madame Malika Mukubu, entrepreneur, et les femmes entrepreneurs et présidente du conseil d'administration de l'Office national du tourisme. Vous voulez participer à cette émission? Appelez au 089 55 98 337. 089 55 98 337. Grâce à Vuezolo assure la coordination et la réalisation de cette émission. Dieudonné Nyangassa à la mise en onde au micro, jeudi Daniel Kachama. Bien, mesdames et messieurs, vous êtes sur Radio Okapi, une voix pour tous, le magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Merci de votre fidélité à ce programme de la vie au quotidien, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Dans cette deuxième tranche de l'émission, nous allons aborder ce thème. Comment investir plus en faveur des femmes? On en parle aujourd'hui avec Madame Malika Mukubu. Elle est femme entrepreneure et présidente du conseil d'administration de l'Office national du tourisme. Vous savez, la Journée internationale de la femme a été célébrée cette année sous le thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Selon les experts, l'un des principaux obstacles à la réalisation de l'égalité des sexes d'ici 2030 et le manque alarmant de financement. En RDC, plus de 61% des femmes vivent sous le seuil de la pauvreté. Elles ont peu ou pas des contrôles sur leurs revenus, car les finances sont contrôlées souvent par les hommes. Et pour de nombreux observateurs, il est opportun d'encourager plus l'entrepreneuriat féminin pour permettre aux femmes de créer de la richesse et sortir de la pauvreté, etc. Bien, nous recevons à présent notre invitée, Madame Malika Mukubu. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Kachama.
Bienvenue dans cette émission.
Merci beaucoup.
Merci d'être devant votre micro. Voilà, très bien. Mm-hmm. Alors, vous êtes femme entrepreneur, présidente du conseil d'administration à l'Office national du tourisme. Que vous inspire ce thème de la Journée internationale de la femme, investir plus en faveur des femmes?
Ben, vous savez, d'abord, quand on est déjà dans, on le vit déjà. On a simplement beaucoup plus d'idées qui nous viennent en tête de comment diversifier en fait toute activité ou toute chose qui devrait agir ou rajouter, augmenter l'investissement à tous les niveaux envers la femme. Et bon, ça m'inspire que, sincèrement, il y a encore beaucoup d'efforts à faire et qu'il faudrait encore beaucoup plus de sensibilisation auprès de la femme elle-même, mais aussi auprès de toutes les institutions, des banques, des associations et du gouvernement. Voilà. Donc c'est ce que moi je me dis, qu'il faut encore pousser un peu plus fort. Parce qu'on n'y est pas encore.
On n'y est pas encore. Non. Mais on remarque qu'il y a de plus en plus des structures qui mettent des moyens pour encourager l'entrepreneuriat féminin.
Oui, il y en a de plus en plus. Et je pense que de l'autre côté, beaucoup ont compris qu'investir en la femme, c'est en fait investir pour le futur. Parce que on doit se rappeler chaque fois que quand on dit c'est vrai que basi batonga mbokate, mais il y a un autre proverbe ou une autre citation qui dit.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Écoutez, vous m'emmenez sur un autre débat là, hein, Monsieur Makachama.
D'accord.
Je dirais oui et non. Oui, oui. Et non, parce que la femme elle-même doit prendre conscience qu'elle doit accepter sa semblable et ne pas la voir comme une adversaire, comme une ennemie, parce que ce n'est qu'en étant unies que les femmes pourront pouvoir tirer tout ce qu'il y a de meilleur.
Tout à fait.
Et c'est ça, on est encore bien très loin de cette idée-là, de cet état d'esprit. Et bon, il y a encore beaucoup d'efforts à faire.
Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Mmh. Alors, donc, il faut mettre beaucoup plus de moyens pour les femmes, encourager les femmes à investir, à faire de l'entrepreneuriat. Il semble que c'est parmi les moyens efficaces pour les sortir de la pauvreté.
Bah, c'est un parmi tant d'autres, c'est vrai. Parce que je pense que la femme a, de par notre culture, de par nos traditions, de par l'éducation, ok, et le regard de la société, les femmes indépendantes à l'époque étaient souvent considérées comme des femmes rebelles, comme des femmes légères et comme des femmes qui, bon, orgueilleuses et tout ça. Alors qu'au fur et à mesure, on voit que les temps changent, les siècles ont changé, les années passent et la femme s'affirme de plus en plus. Et il faudrait absolument que toutes les mesures soient mises en place encore plus. Il y a de plus en plus, c'est vrai, même les associations simplement caritatives. Il y a même aussi des associations et des projets. Ok, il y a des projets de société qui sont basés simplement aujourd'hui sur l'entrepreneuriat, de comment investir justement pour permettre à la femme d'avoir des activités génératrices de revenus. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'encouragerais la population de Kinshasa de choisir une femme au poste de gouverneur de la ville. Oui, parce que la femme, quand on investit en la femme, comme on dit, vous lui donnez du citron. Eh ben, avec du citron, elle vous en fait un déodorant, elle vous en fait une tarte, elle vous en fait une limonade. Hein. Elle vous produit tellement de choses. Et elle nettoie l'acier et avec et tout ça. Et donc, je pense que il faudrait que le commun des mortels masculins comprenne que investir en la femme est une très 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 bonne chose. Mmh. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi la femme en elle-même doit apprendre à investir en elle.
Comment? En faisant quoi exactement?
Bah, la femme, vous savez, l'investissement, il n'est pas que financier, hein. Bien qu'il soit financier, mais avant d'être financier, il doit d'abord commencer par autre chose. C'est en apprenant, c'est en acquérant des connaissances, c'est en se documentant et en observant pour pouvoir après reproduire ce qu'on a vu, qui nous emmènerait aussi à avoir accès à ce financement-là. Parce que vous savez, vous donnez par exemple $1000 à une femme, simplement à une femme, mais qui ne saura pas quoi en faire. Pourquoi? C'est parce qu'elle n'a pas encore découvert les talents qu'elle a en elle, les capacités, ses potentialités, elle ne les a pas travaillées et elle ne saura pas comment orienter justement ses investissements. Ça, c'est si on parle d'investissement financier, ok? Vu que il est dit cette année, on affirme et on confirme encore que les difficultés de la femme sont beaucoup plus du point de vue accès aux finances ou au financement. Alors, il est important. D'abord,
il y a aussi des problèmes d'éducation. Certains disent que ce sont les femmes qui sont les plus... s'il y a des analphabètes au Congo, c'est beaucoup plus...
Les femmes. C'est pour ça que je vous ai dit que d'abord, c'est un problème culturel, traditionnel et sociétal. Parce que je pense que nous en avons parlé plusieurs fois. Il y a dans plusieurs régions encore, et même ici dans la capitale, qui est Kinshasa, il y a des familles dans lesquelles vous trouvez qu'il y a cinq garçons, et il y a peut-être deux filles, bah, les parents ou le père préfèrent envoyer les garçons à l'école et les filles doivent rester à la cuisine, nettoyer, apprendre les tâches ménagères et tout le reste, et comment devenir mère au foyer. Vous voyez ? Donc tout part toujours de l'éducation qu'on donne à nos enfants. Et ensuite, bon, il y a aussi le fait que, comme je l'ai dit, la femme se sous-estime beaucoup. La femme a souvent peur de se lancer. La femme a souvent peur d'embrasser ou de réaliser ses rêves. Et encore faut-il qu'elle ait un rêve, parce qu'aujourd'hui on a de moins en moins de
femmes qui ont des rêves.
Non, écoutez, on va prendre la couche. Il faut pas. Les femmes peuvent avoir des rêves, ok, mais ne pas savoir comment les réaliser.
Ou soit des rêves qui sont étouffés par leurs partenaires.
Tout à fait. Étouffés, complètement étouffés, pas seulement par les partenaires. Vous avez des parents aussi qui étouffent les rêves des enfants. Mmh. Vous voyez? Donc c'est je pense que le mal, il est beaucoup plus profond que ça. On ne peut pas simplement parler de financement. il faudrait continuer à marteler sur le problème, la problématique de l'éducation.
Investir dans l'éducation
dans l'éducation de la jeune fille d'abord à l'école, donc au milieu scolaire, l'accès à la scolarité, à l'éducation à la maison, et aussi en société. Dans la société, c'est très important, parce qu'il y a des femmes qui ont peur aussi des fois de se dire, bon, ok, je vais déposer mon CV pour être directrice, par exemple, parce que bon, elle se dit, elle a tellement entendu aussi de ce qu'il y a eu de mauvais par rapport à être directrice ou secrétaire ou dans l'administration, que elle se dit non, je préfère pas. Alors elle reste dans son confort.
Et il y a même des maris qui n'aiment pas que leur femme travaille parce qu'ils se disent, elle va sortir avec le directeur, elle va faire ceci, elle va faire cela.
Et il y en a, il y a des hommes encore comme ça, vous savez, qui voient très mal leur femme aller travailler. Et
même si elles en ont la capacité.
Même si elles en ont la capacité, donc automatiquement ça l'étouffe, ça éteint tout, et ses rêves, elle ne pourra jamais les réaliser. Donc voilà.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Clovis Tanguela est à Lubumbashi et Jacques Befonga nous appelle de Kisangani. Clovis Tanguela, bonjour.
Bonjour la Radio Capi. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Quelle est votre préoccupation?
Voilà, je salue la pertinence du sujet du jour. Investir dans la femme, c'est un grand projet de vie, mais il y a certaines conditions qui bloquent cet investissement. Pourquoi? La femme, selon notre tradition, est vouée à donner fidélité à son mari, alors que le mari, lui, ne peut donner la fidélité à sa femme. La femme est conditionnée à rester attaché aux ordres, aux règles, aux limites que le fixe son mari. Elle peut avoir la possibilité de travailler, de faire le commerce, mais dès que cette femme est déjà prise en mariage, le mari ne peut pas facilement la libérer. Pourquoi? Parce que il pense dans son fief que s'il peut libérer la femme et faire ses affaires, il peut déboucher facilement et le mari n'aura pas la même mise sur cette femme. Alors c'est cette pratique que traditionnelle bloque souvent. Nous avons vu les filles qui ont terminé la licence et qui ont la possibilité de travailler. Et dès qu'elles sont entrées au mariage, elles subissent les lois fixées par leur mari et puis ça reste comme ça. Et elles décident tout ce qui a été acquis. Et puis, c'est comme ça, c'est banni, c'est rejeté. Alors, ça a beaucoup bloqué. Nous avons fait cette expérience, et parfois, moi-même, je l'ai dit souvent, un monde sans la femme, c'est un monde mort. Une économie sans l'apport d'une femme, c'est une économie morte. Que ce soit l'économie du pays, que ce soit l'économie de la famille. Nous avons vu dans les ménages là où l'homme travaille, la femme travaille, vous voyez qu'il y a plus de développement que les familles qui sont dans lesquelles il n'y a que l'homme qui part travailler, qui vient seulement avec le petit salaire. Vous voyez que là, il y a tout, parce que la femme devient à ce moment-là une charge que l'homme doit supporter. Aussi longtemps que la femme peut quitter dans l'état d'une charge et devenir un appui pour l'homme et supporter parfois les prendre parfois en charge de petites, si je peux me répéter, de petites charges.
Bien, merci. Alors, Clovis, merci beaucoup. Donc vous n'avez pas une question, c'était juste vous avez donné un apport. Voilà, Jacques Befonga de Kisangani, bonjour. Jacques n'est plus en ligne. Madame Malika,
oui,
votre réaction par rapport à ce que nous a dit tout à l'heure Clovis?
Ben oui, je suis très contente d'entendre un homme parler comme ça.
Ouais.
C'est un homme qui a compris que investir en la femme d'une grande aide, qui a été créé d'abord pour venir en aide à l'homme et non pour être simplement mise de côté comme une statue ou une personne à tout faire. Et tout ce qu'il a dit est vrai. Je suis d'accord avec lui quand il dit que investir en la femme c'est un projet de vie, que dans un foyer, quand les deux parents travaillent, l'homme et la femme, c'est toujours un plus. Il y a beaucoup plus d'aisance. Et même de manière relationnelle, je veux dire, la relation est beaucoup plus détendue, hein, je pense, que quand il y a que l'homme qui travaille et la femme ne travaille pas, et bon, il devient nerveux, les choses ne marchent pas très bien, et ça lui donne en fait beaucoup plus d'arguments pour la pointer du doigt et lui dire que bon, là où tu vas travailler, un peu comme vous avez dit, c'est parce que tu es avec le directeur ou que tu es avec ton supérieur et tout ça. Et
c'est des maris trop jaloux, hein. Parfois la jalousie mal placée.
Mal placée, mais qui tue. Parce que en même temps, en le faisant, ça la femme se sent diminuée et ne se sent pas valorisée non plus. Et donc il est difficile pour elle de faire éclore, de faire éclater aussi les potentiels qu'elle a en elle. Donc vraiment il y a rien à ajouter à ce que
monsieur a dit. Alors est-ce qu'on peut dire qu'investir dans la femme c'est aussi donner des postes, des responsabilités pour la gestion de la chose publique aux femmes, avoir des femmes gouverneurs, premiers ministres, etc.
Mais bien sûr, je pense que le mot d'ordre, le souhait, le vœu le plus profond a été donné, est connu déjà par le garant de la nation, qui a dit qu'il, à sa dernière conférence de presse, il a dit qu'il voulait travailler avec plus de femmes. Donc, et on a aujourd'hui de plus en plus de femmes dirigeantes, des femmes à des postes de commandement et à des hauts postes. Et lorsque nous faisons les statistiques, avouez-le que nous avons moins de scandales lorsqu'il s'agit des femmes qui sont à ces postes-là.
Il y a moins de détournements.
Et il y a même beaucoup plus de solutions trouvées à des problèmes que lorsque ce sont des hommes. Ouais. C'est simplement, comme j'aime le dire,
que généralement les femmes sont des bons gestionnaires et puis.
La femme est une gestionnaire née, c'est inné en elle. Vous prenez une petite fille, vous lui donnez des bonbons, elle saura comment les partager avec ses amis. Elle saura même en garder. Moi, il y a des choses que j'ai vues avec ma fille lorsqu'elle était petite. Je lui demandais, écoute, garde-moi ça, tiens-moi ça. Ok, ça pouvait être de l'argent ou quoi. Mmh. Et ben, je me rendais compte que après, je sais pas combien de temps, elle revenait me dire, ah mamie, regarde, tu m'avais donné ça. Et à l'heure où on parle, la gestionnaire de la maison là où elle vit avec ses frères, ben ouais, c'est elle alors que ce sont les grands qui sont là, les garçons, mais c'est elle qui gère et elle gère très bien.
D'accord, on va répondre Jacques Befonga, il est de nouveau en ligne. Jacques, bonjour.
Bonjour, c'est le journaliste, bonjour à l'invité au studio.
Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire Jacques?
Oui, merci de nous avoir associés dans cet échange. Et j'ai salué la pertinence des arguments de madame qui est au studio. Alors ça toutefois sous-estimer les qualités, les compétences de la femme. Et c'est important quand même de rappeler qu'il y a certaines prédispositions culturelles ou encore, je peux dire sociales qui pénalisent un peu l'avancement de la femme et encore jusqu'à présent. L'évolution ou encore la liberté de la femme à exercer certains travaux. Et aussi, il y a lieu de rappeler qu'il y a certains travaux qui ne sont pas. Et c'est bien qu'il a.
Oui, Jacques, vous êtes là?
Oui, je suis en ligne.
Oui, quelle est la question rapidement, Jacques? Allô? Je pense qu'il y a quelques soucis au niveau de la liaison téléphonique. On n'a pas pu avoir sa question. Alors, Madame Malika, parlez-nous de votre propre expérience. On parle investir en faveur de la femme. Vous êtes femme entrepreneur aussi. D'abord, voilà aussi. Et puis, dites-nous comment vous êtes arrivée, comment vos parents ou votre entourage a investi en vous et jusqu'à faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui.
Mais vous savez, je viens d'abord d'une famille dont je suis l'aînée. Ok, et j'ai grandi avec beaucoup de garçons autour de moi, et ma petite sœur est venue seulement presque 10 ans après. Et donc, j'avais droit à la parole, et on me confiait des tâches qu'on pouvait confier à mes oncles, qui étaient jeunes aussi, à mes grands-cousins qui étaient là. Mmh. Et du côté... C'est vrai que j'ai eu un père qui a été très, très sévère. À l'époque...
Très, très sévère à votre égard?
Ah ou... oui.
Ok.
Il ne voulait pas que je sorte. Au départ, je voulais faire des études d'hôtellerie comme lui. Hôtellerie et tourisme. Mmh. Mais il m'a dit, non, tu seras très exposée et tout ça, je voulais le faire en Suisse. Alors après ça, je me suis dit, bon, ok, d'accord, je vais aller en business management. J'ai fait le business management et puis je me suis dit, non, je vais faire le droit. Et puis, non, le droit, ça va te prendre trop de temps et tout ça. Et c'est comme ça que je suis revenue en business management. D'ailleurs, je viens de décrocher mon deuxième master en décembre, là, voilà.
Félicitations.
Merci. Et je peux avouer que il m'a dressé, en fait, hein. Il m'a dressé. C'est vrai que pendant un bon bout de temps, je ne savais pas m'exprimer parce que il était très sévère. Je ne savais pas comment aborder certains sujets avec lui, mais j'ai une mère qui, elle, est très ouverte d'esprit, qui, elle, dans sa famille, toutes les femmes ont droit à la parole, et c'est d'une lignée de matriarcale. Mmh. Les femmes sont souvent très imposantes. Les femmes ont droit à la parole et c'est elles qui tiennent les choses. Alors, bon, je pense que j'ai hérité ça du côté de ma mère, et elle a beaucoup investi en moi dans le sens où, dans le comportement, dans ne pas avoir peur quand j'avais un rêve ou quand je voulais faire quelque chose. Mmh. Elle me disait, tu peux le faire, vas-y.
Voilà.
Et quand j'y allais un peu fort, elle me disait, non, là maintenant tu dois te calmer.
Mais
un tout petit peu,
là.
Attention un peu.
Diminuer un peu.
Voilà, donc je pense que cet équilibre-là, il était là. Mmh. Et mon père a beaucoup, énormément investi en nous. Parce que...
Dans vos études. Hein.
D'abord dans les études. Et puis après, même à la maison, vous savez, il nous mettait au fond d'une salle. Et lui, il se mettait à plus de 5, 6, 7, 8 mètres. Et il vous demandait de faire vos récitations. Et on apprenait le latin avec lui. Et il nous a fait découvrir le monde, et donc j'ai découvert le monde très très jeune. J'ai parcouru le monde très jeune, les voyages et tout ça, et il m'a souvent sorti. Donc je l'accompagnais souvent, et à tous les dîners qu'il y avait à la maison, vu qu'il était d'abord il était au commissariat général à l'époque de Mobutu dans le tourisme. Mmh. Donc et après
aujourd'hui
cela,
vous vous retrouvez aussi à la tête,
mais je vous assure, c'est
du ministère du tourisme,
pas du ministère du tourisme, de l'office
de
national
l'office,
du tourisme, parce
voilà.
que nous avons un ministre de tutelle.
Tout à fait.
Et après ça, il est passé directeur commercial à Sabena, et puis DG, et puis secrétaire général de SN Bruxelles. Donc il a vécu toutes les étapes de la Sabena à l'époque de Mobutu, et tous les changements qu'il y a eu jusqu'à ce jour. Et donc, on recevait énormément à la maison des ambassadeurs, des ministres, mais de toutes souches, ici, comme à travers le monde là où on allait. Et il me disait toujours, c'est toi qui vas m'aider à dresser la table. C'est toi, Malika va prendre des fleurs. Malika, c'est toi qui va et comme
il
ça.
Il t'est responsabilisé déjà.
Il me responsabilisait déjà. Mmh. Et ce qui fait aussi que ça m'a donné un carnet d'adresses énorme, parce que toutes ces personnes, je les connais et ils me connaissent jusqu'à ce jour. Et le poste de responsabilité, je l'ai eu très très tôt. Et je pense que ça là, de ce que j'ai reçu de mes parents ou de ma famille. C'est quelque chose qu'à l'école on n'a pas, et dans la société, que la société ne peut pas vous donner. Mmh. C'est pour ça que j'ai parlé de l'éducation de base, la cellule de base qui est la famille.
Et à votre tour, comment vous faites aujourd'hui pour aider aussi les autres femmes et les jeunes filles?
Ben, vous savez, d'abord déjà, j'ai commencé, je dirais encore une fois, très tôt. J'étais quand même une grosse tête à l'école, et j'avais toujours beaucoup de gens autour de moi. Mmh. Et c'était souvent très mal conçu, très mal vu, et les garçons aussi, hein, d'ailleurs, hein, j'ai beaucoup plus d'amis garçons que filles jusqu'à ce jour, et c'est très mal, ça peut être très mal interprété pour certains, mais je me dis, bon, j'ai grandi comme ça déjà. Mmh. en famille. Alors, les jeunes filles, j'avais à l'époque une agence qui recrutait des mannequins, des hôtesses et consorts que j'affectais quand il y avait de grands événements. Et ensuite, je suis passée à l'habillement du personnel d'une grosse boîte privée ici au pays depuis 2015. Et j'investis justement dans le. J'aime pas le mot coaching. J'aime pas le mot coaching, j'aime le mot accompagnement.
Accompagnement, c'est beaucoup plus mieux.
Oui, accompagnement, c'est mieux. Hein. Oui, beaucoup de jeunes filles se rapprochent de moi pour les guider. Par exemple, là, je vais donner un exemple d'une fille dont je suis fière, qui est comme une petite sœur, qui est une petite sœur, pratiquement une fille pour moi, qui s'appelle Raïssa Moubou, qui est dans le monde de l'événementiel, et qui, lorsque, justement, parce que à la maison, il y avait beaucoup de soucis, parce que son père n'avait pas de travail et sa mère était très malade, moi, je n'étais pas au pays, mais elle m'a appelée, elle m'a dit, tata, j'ai besoin d'un travail. Je lui ai dit, ok, je vais voir dans mon carnet d'adresses. Et je l'ai envoyée à Breakfast Connection chez Monsieur Albertoni, qui l'a d'abord prise. Et elle avait un projet qui est connu d'ailleurs, qui est le Ladies Academy. Et je lui ai dit, fais comme ça, va comme ça. Mais une fois arrivée aux côtés de Monsieur Albertoni, elle a commencé à évoluer. Elle a sorti le magazine Robank. Elle a réalisé son Ladies Academy.
Oui.
Aujourd'hui,
elle vole de ses propres ailes.
Et comme ça, je vous assure, j'en ai plus de. Allez, je saurais pas les compter. Elles sont
beaucoup
tellement
de jeunes
nombreuses.
Femmes que vous avez
énormément
motivées, encouragées.
Énormément.
Bien. On va accueillir Maître Patrick Odia de Lubumbashi et Patrick Makolo. Les deux sont dans la même ville. Hein. Patrick Odia, bonjour.
Oui, bonjour monsieur les journalistes, bonjour Ali.
Bonjour monsieur.
Bien, nous parlons de l'investissement, comment investir plus dans la femme. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en faveur des femmes? Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets?
Monsieur les journalistes, investir dans la femme, éduquer toute une partie, éduquer cette situation, disons, ou a-t-on appris également. Je pense que le thème.
Bon, on vous reçoit pas très bien. Je vais vous demander de parler un peu plus fort.
Oui, j'ai dit ceci. Oui. Investir dans la femme corrobore avec la maxime célèbre que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors, cet investissement dans la femme se caractérise à plusieurs niveaux. Non seulement sur le plan scientifique, non seulement sur le plan culturel, sur le plan économique, mais dans tous les plans, même le plan, j'allais dire, éducationnel également. Au jour d'aujourd'hui, monsieur le journaliste, nous faisons face à des défis énormes, à une transition technologique sans précédent également, qui a des conséquences et des percussions également très nécessaires et très négatives également. Aujourd'hui, lorsque je prends, par exemple, lorsqu'on veut investir dans la femme, l'on devrait se rassurer d'abord que les baisers à bas sont d'ailleurs mieux maîtrisés par les femmes, en termes de culture, en termes de comportement, en termes d'éducation. Mais au jour d'aujourd'hui, plusieurs femmes également ne se reconnaissent pas, c'est la première difficulté ou le premier défi, ne reconnaissent pas les vrais pouvoirs qu'elles ont, le vrai pouvoir d'impacter le monde qu'elles ont ou qu'elles auraient. Mais ces pouvoirs ne deviendra effectif que lorsqu'elles passent par l'éducation familiale de base, bien assimilée, mais aussi une éducation à l'université, à l'école et que sais-je, scientifique. En ce moment-là, l'on pourrait parler d'un investissement politique, d'un investissement économique. Mais dès lors que la première base, j'allais dire, l'éducation également, les scientifiques ou familiales, ne sont pas maîtrisées par la femme, ça pose aujourd'hui un problème. J'ai eu la chance de parler avec plusieurs femmes également, mais nous avons un défi sur le plan culturel également, dans l'habillement, dans leur façon de se comporter. Vous vous rendez compte que la plupart des crimes, j'allais dire, des infractions en matière de violences sexuelles qui sont commises en RDC et pourquoi pas dans le monde, ce sont nos sœurs, ce sont nos mamans, ce sont nos petites sœurs qui sont à la base, pour ne pas dire toutes les femmes en général. Alors, je pense que parler d'un investissement économique ou financier dans la femme, alors qu'il y a des baisers à bas qui devraient être maîtrisés ou qui sont qui sont comme une priorité, ne sont pas maîtrisés par les femmes, je pense que ça posera énormément, énormément de problèmes. Et je pense que nos mamans, nos grandes sœurs, nos tantines et nos grands-mères ont un grand rôle à jouer dans la maîtrise de la culture chez nos jeunes filles. Aujourd'hui, une fille peut rentrer à 19h, à 20h, à 21h, maman ne va pas parler. Ou quand ? Toi, grand frère, tu vas essayer de parler, maman va essayer de te maîtriser et rien ne se fera. Mais lorsque vous prenez à, vous rentrez un peu en utilisant l'approche diaconique, 5 ans, 10 ans après ou avant, vous allez vous rendre compte que même nous, les garçons, nous n'avions pas le droit de rentrer à la maison à 18h ou à 19h. Nous, garçons.
D'accord. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on retient rapidement, les autres attendent ?
Bon, pour terminer, pour essayer de chuter, je pense que il faut investir dans la femme, mais cet investissement chez la femme passe par la maîtrise de l'éducation de base.
D'accord.
Avant de parler d'un investissement économique, d'un investissement financier,
oui.
Mais il faudrait maîtriser les bases et bas de la, l'éducation
les culturelle,
bas
de l'éducation
de base, mais l'éducation religieuse également.
Merci.
Et les femmes doivent cultiver ou nos mamans doivent assurer un contrôle régulier.
D'accord, merci beaucoup Monsieur Jacques. On va accueillir un autre auditeur, toujours à Lubumbashi. Pardon, c'était Monsieur Patrick Audiard. Monsieur Patrick Makolo, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question rapidement?
Je vais bien. Alors, je vous ai pris diffusion en cours et vous dites que le sujet, c'est pour investir dans la femme.
Oui. Quelle est votre question par rapport à ce sujet?
Oui, voilà. Donc, on ne doit pas investir dans la femme comme si la femme était une machine qui doit recevoir les produits pour fabriquer l'investissement. La femme doit d'abord elle-même se considérer comme véritable acteur ou actrice du développement ou de l'investissement. Donc, il faudra que la femme aussi d'abord puisse quitter la zone de confort, la zone de peur. Comme ça, elle se met comme agent de développement et elle manifeste aussi l'intérêt pour que contribuer à l'investissement. Donc, on ne peut pas dire on investit dans la femme. Non, la femme elle-même doit prouver qu'elle a besoin d'investir pour développer le pays. Donc, vous savez que ce genre de considération, c'est lorsque les valeurs traditionnelles, religieuses...
D'accord. Merci Patrick. On n'a plus beaucoup de temps. Peter oui. Maboudi de Kinshasa, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Rapidement, soyez bref, on n'a plus beaucoup de temps. Quelle est votre question rapidement, Peter?
Oui, merci Monsieur Jody. La femme congolaise, comme toutes les femmes africaines, Monsieur Jody, aujourd'hui, les femmes détiennent l'économie ménagère, voire même de certains États. Pour la femme congolaise, l'entrepreneuriat de la femme congolaise, je crois que c'est une initiative à encourager. Mais cependant, ces femmes sont exposées à plusieurs conditions inhumaines qui ne favorisent pas leur épanouissement dans le cas de l'entrepreneuriat, surtout des fois ici au Congo, où les femmes ne sont pas structurées dans des organisations où elles peuvent avoir des échanges pour leur performance, la gestion financière ou l'éducation financière, et également aussi les conditions du marché dans lesquelles les femmes ici œuvrent. Elles sont exposées à plusieurs intempéries auxquelles elles font face. Je crois que les structures des femmes qui sont sur place doivent militer afin de mettre les femmes ensemble, faire la promotion de leurs économies et les amener à une éducation financière, parce qu'aujourd'hui, les femmes font étudier leurs enfants, les femmes détiennent les ménages, les femmes supportent même les études des enfants à la maison, les tâches qui devraient revenir des fois aux hommes, malheureusement les hommes ne le font pas. Je crois que ce sont des initiatives qu'il faut encourager pour que les femmes puissent contribuer également aussi au développement du pays, Monsieur Joly.
Bien, merci beaucoup. Bonne journée, Madame Malika.
Oui, Monsieur Gachet.
Vous avez la parole, votre réaction après avoir entendu les auditeurs.
Ben, écoutez, la dernière intervention complète toutes les autres, sauf monsieur qui est venu avant, qui a intervenu avant,
oui.
Qui accuse un peu les femmes. Hein. Il a dit que la plupart des violences, les violences faites à la femme viennent ou sont dues
à l'habillement des femmes.
Ce n'est pas faux. Il parle de la culture ou du vestimentaire de la femme d'une crise d'identité. C'est une crise d'identité dans sa manière de s'habiller. Mmh. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, c'est que c'est vrai. C'est parce qu'aujourd'hui, vous savez, on vit dans un monde rempli d'antivaleurs. À l'époque, il y a certaines tenues que les jeunes filles ou les femmes ne pouvaient pas se permettre de porter. Aujourd'hui, mais moi-même, des fois, je suis choquée.
C'est moi, parfois l'effet de la mode, c'est qu'elle voit la télévision, les réseaux sociaux,
les
etc.
Les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'il a parlé de la technologie. Mmh. Vous savez, la technologie est une bonne chose, mais seulement lorsqu'elle est bien, elle est bien utilisée, quand on en fait quand on l'utilise à bon escient.
Oui.
Et ici, il faudrait le reconnaître, hein, qu'en RDC. Et surtout ici dans la capitale de Kinshasa, la jeune fille est perdue. Les jeunes filles sont perdues, et même les jeunes femmes. Il y a même certaines femmes, mamans, qui sont perdues. Dans leur accoutrement, c'est vrai que c'est...
Et comment les récupérer et investir davantage en elles?
Écoutez, lorsqu'elles sont encore toutes jeunes, c'est beaucoup plus facile. Mais lorsqu'elles ont déjà atteint l'âge de la majorité, quand elles sont majeures,
ça devient compliqué
parce que c'est toute une culture, maintenant une nouvelle culture en elles. Et donc l'authenticité est biaisée et elle a tendance à copier. Et comme l'a dit le monsieur qui a intervenu en dernier lieu, tout commence par l'éducation de base.
Il n'y a pas seulement l'investissement économique.
Non, ouais. L'investissement, il doit être culturel. C'est pour ça que je vais commencer à marteler sur notre culture, hein, et un retour à l'authenticité, à l'originalité, parce que la femme n'a pas besoin de se dévoiler, n'a pas besoin de dévoiler son corps pour être aimée, pour être appréciée ou pour se faire valoir. Mmh. Et d'ailleurs, c'est même beaucoup plus joli encore lorsque on voit presque rien, on se pose des questions. Alors, pour notre société congolaise, il faudrait, je ne cesse de le dire, il faudrait absolument qu'un cours d'éducation à la vie, des cours d'éducation civique, de civisme, reviennent dans le cursus scolaire et même à l'université. Et même à l'université. Parce que, vous savez, il y a des hommes qui voient au-delà du vêtement. Et lorsque déjà c'est déjà dévoilé, et ils pensent,
mais ils pensent que c'est bon,
à autre chose, ils pensent que c'est bon et ouais, il a même plus la permission.
Ouais.
Et donc c'est comme ça que toutes ces violences augmentent, vont crescendo. Mmh. Et c'est très triste. Mais je pense aussi, comme je l'ai dit tantôt, il ne faut pas seulement voir le problème financier comme étant un défi, un blocage par rapport à l'évolution de la femme.
On peut surmonter ces défis-là.
Il y a moyen de surmonter, c'est même beaucoup plus facile à surmonter que le problème culturel
et éducationnel.
Oui, c'est beaucoup plus facile à surmonter que toutes ces choses-là.
Bien, Madame Malika, on est arrivé à la fin de l'émission.
Déjà.
Merci d'être venue. Merci. Je rappelle que vous êtes entrepreneur et présidente du conseil d'administration à l'Office national du tourisme.
Oui, et présidente du collectif Vision Congo, justement,
Vision Congo.
L'association par laquelle, justement, je passe pour investir en faveur des femmes depuis plusieurs années aujourd'hui.
Merci.
Voilà.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Dieudonné Nyangasa a été à la mise en onde. Grâce à Mvuizolo a assuré la coordination et la réalisation. Jeudi, Daniel au micro. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. À la prochaine.